Santé Beaujolais d'Ombes.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire pour le territoire Beaujolais d'Ombes. Vous pouvez retrouver l'émission Santé Beaujolais d'Ombes sur le site internet de Radio Calade, www.radiocalade.fr, ou sur la page Facebook de la radio, ou sur le site de la CPTS Beaujolais d'Ombes, cptsbeaujolaisdombes.fr. Cette émission est préparée par l'équipe radiophonique de la communauté territoriale de santé Beaujolais d'Ombes et animée aujourd'hui par Alexandra. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Marie.
Bonjour Ludovic.
Je vais quand même la refaire. Alors, ces transports, ça se passe bien ?
C'était compliqué, mais ça va. On est là.
Aux manettes, Amaury, à qui nous souhaitons la bienvenue, car c'est sa première émission. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir avec notre invité le rôle et les missions des sages-femmes, dans le contexte, bien sûr, de notre territoire. En France, nous comptabilisons 23 764 sages-femmes, c'est précis, et 33 sur notre territoire, c'est également précis. Vous êtes au niveau national à 97% des femmes, vous exercez majoritairement sur l'hôpital à 57%, 38% en libéral et 5% en association ou dans diverses structures. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Lorraine Duret, sage-femme, exerçant sur le territoire Beaujolais d'Ombes. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer les différentes facettes de votre métier et comment vous accompagnez les femmes enceintes tout au long de leur grossesse, mais pas seulement, car la profession a d'autres missions de soins. Nous aborderons également la question de la coordination de soins avec les autres professionnels de santé et comment les sages-femmes travaillent en collaboration avec différentes professions comme les gynécologues, les pédiatres, les infirmières, les ostéopathes et bien sûr, surtout dans notre contexte du territoire Beaujolais d'Ombes. Enfin, nous aborderons aussi la prévention, puisque la prévention rentre dans votre cadre d'exercice. Il est important, et avec la préparation de Juin Vert, vous allez nous expliquer un peu les objectifs de cette prévention. Première question, le métier de sage-femme, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le métier de sage-femme, c'est tout d'abord une profession médicale, dont notre spécialité est d'accompagner principalement la femme, alors de son plus jeune âge, en général à partir de l'adolescence, jusqu'à l'âge de la ménopause et même plus, parce que c'est important de poursuivre le suivi même au-delà de la ménopause. On accompagne également et puis on suit les bébés au cours du premier mois de vie, qui sont nos limites pour l'instant, qui vont peut-être évoluer vers un âge plus élevé. Et puis, nous sommes également en contact avec le papa ou le coparent, notamment dans les cadres des séances de préparation à la naissance, pour pouvoir préparer avec le couple l'arrivée de cet enfant, le jour J de l'accouchement, mais également l'après, tout ce qui est soin du postpartum, comment s'occuper d'un bébé, qu'est-ce que la triade, la vie en famille à trois.
Et du coup, au niveau de la grossesse, vous suivez toutes les femmes ou qu'une certaine? Comment ça se passe?
Alors, au niveau de la grossesse, on peut suivre presque toutes les femmes. Parce que le métier de sage-femme est défini par ses limites qui sont la physiologie. Du coup, nous sommes obligés de les réadresser en cas de contexte pathologique à nos confrères, les gynécologues obstétriciens, dans le cadre de la grossesse, ou les gynécologues médicaux, dans le cadre de la gynécologie.
Et vous les suivez jusqu'à quel terme de leur grossesse en libéral ?
Alors, en libéral, on commence à les suivre déjà en préconceptionnel. On a pas mal de jeunes femmes, de femmes qui viennent nous voir parce qu'elles ont des questions sur le fait qu'elles aient un projet de grossesse, sur quand arrêter leur contraception, quelles sont les choses à mettre en place avant de lancer ce projet de grossesse. Ensuite, on va pouvoir les accompagner tout le long de la grossesse jusqu'environ au 7e ou 8e mois. Ça va dépendre de la structure où elles accouchent. Souvent, quand c'est en mode hospitalier public, on les suit jusqu'à la consultation du 7e mois et l'hôpital prend le relais pour les deux dernières consultations de grossesse. celle du 8e et du 9e mois, et également pour la consultation d'anesthésie qui est obligatoire pour l'accouchement. Les cliniques privées ont tendance à récupérer le suivi un peu de manière plus précoce, souvent aux alentours de 7 mois de grossesse.
Et à l'hôpital ou en clinique, est-ce que le suivi peut être fait aussi par des sages-femmes ?
Oui, tout à fait. En fait, les femmes sont libres de choisir le lieu de leur suivi. Donc, il y a encore peu de temps, on pensait surtout aux sages-femmes qui étaient à l'hôpital parce que c'était le lieu de profession essentiel à partir du moment où la profession de sage-femme a débuté. Ça fait environ depuis les années 2000, plutôt 2000-2010, que la profession s'est diversifiée. Et c'est aussi installé en libéral. La patiente a le choix de contacter le praticien qu'elle souhaite, dans la structure qu'elle souhaite. Donc ça peut être sur l'hôpital, où elles peuvent être mises en lien s'il n'y a pas de pathologie particulière, pas de facteur de risque, avec des sages-femmes qui font de la consultation prénatale, tout comme les sages-femmes en libéral. En libéral, pareil, souvent on a un peu moins de filtres parce que la patiente prend directement contact avec nous. Donc, c'est nous qui établissons lors du premier rendez-vous un peu le dossier médical pour voir s'il y a des limites, notamment par rapport à cette limite physiologie-pathologie, et voir si du coup ça permet ça rentre dans le cadre de notre suivi. En fait, la Haute Autorité de Santé réglemente le suivi en trois catégories A, avec A1, A2 et B. Et donc, du coup, en fonction des facteurs de risque retrouvés dans le dossier de la patiente, suivi possible avec une sage-femme, A. Suivi possible avec une sage-femme, mais recommandé de consulter un gynéco, c'est un suivi A1, etc. Donc, du coup, notre but, c'est un petit peu de débroussailler tout ça à la première consultation, de voir s'il n'y a pas des choses particulières qui feraient que ce serait plus dans nos compétences, comme par exemple des pathologies sur des utérus qui peuvent être mal formés, sur des pathologies sur des précédentes grossesses, comme des dames qui ont eu des interruptions médicales de grossesse ou autres. Et donc, on réoriente ensuite vers nos confrères gynéco s'il y a besoin dans le cadre de la pathologie et si tout est OK. Nous, on peut continuer le suivi. Et bien sûr, c'est remis en question chaque mois à la consultation parce qu'au cours de la grossesse, peuvent arriver certaines pathologies, comme notamment le dépistage du diabète, qui est souvent un petit peu plus tardif dans la grossesse. Et donc, du coup, dans les cas de dépistage de diabète, on réoriente à ce moment-là vers un gynécologue parce qu'il y a besoin d'un avis pour la fin de grossesse.
Vous parlez d'un relais justement avec les cliniques et les hôpitaux à partir d'un certain terme. Dans le cadre de projets d'accouchement à domicile et autres, il y a forcément ce relais qui intervient ou vous pouvez gérer jusqu'au bout ?
Alors oui, dans les cadres de projets d'accouchement à domicile, il y a besoin d'avoir en plus du suivi par la sage-femme qui exerce en libéral un suivi par un hôpital de secteur de référence qui doit être situé à normalement moins de 30 minutes du domicile de la patiente. Parce que même si c'est un accouchement à domicile et que ces accouchements sont choisis sur des traits de physiologie avec des points bien respectés, tout peut se passer au moment du travail et de l'accouchement. Et donc, du coup, s'il y a besoin de réorienter et de muter pour une pathologie, une complication, il faut que l'hôpital de secteur ait connaissance du dossier de la patiente et puisse, du coup, prendre en charge rapidement.
Vous travaillez, du coup, extrêmement en lien avec les gynécologues et les services des hôpitaux et des cliniques.
Oui, on est bien en lien avec eux. Alors, ce n'est pas forcément du lien toujours direct, parce que on est chacun très occupé de notre côté. C'est ça qui est parfois un petit peu difficile. On va savoir plutôt au téléphone, par le biais d'un mail ou de la messagerie sécurisée de santé. Mais effectivement, on n'hésite pas à les contacter si on a une question, à leur transmettre le relais si on découvre une pathologie. Ça va être du coup plutôt avec les gynécologues dans ce cas-là, mais ça peut être aussi avec les pédiatres lorsqu'on fait les visites à domicile en retour de maternité. Parce que on examine des bébés et on peut se trouver dans des situations où on a des examens cliniques pathologiques et on a besoin d'une prise en charge médicale par un pédiatre avec des examens complémentaires. Et donc, on réadresse à ce moment-là, souvent par le biais des urgences pédiatriques. Et après, on est aussi en contact avec d'autres professionnels, en parallèle avec le secteur territorial, avec la protection maternelle et infantile, qui comporte aussi des sages-femmes. Ça, c'est des sages-femmes qui sont employées par le département et qui ont plus à viser d'accompagner, de suivre des situations sociales complexes ou des situations dans lesquelles on a mis en évidence des difficultés qui nécessitent un accompagnement un peu plus particulier. Donc là, on va être plutôt en lien avec des sages-femmes, mais aussi des puéricultrices, des assistantes sociales, des psychologues. Et on a tout un versant de travail également avec des professions non médicales qu'on intègre, nous, dans notre cabinet, beaucoup dans notre, avec nous dans notre travail quotidien, notamment tout ce qui est ostéopathe, hypnothérapeute, kiné et autres, parce que on va avoir besoin, des fois, sur des problèmes de succion, sur des problèmes d'alimentation, d'avoir besoin de spécialistes un peu plus précis. Et donc, on oriente beaucoup sur ça.
Et donc, vous faites, vous occupez beaucoup des femmes pendant leur grossesse, mais les sages-femmes, elles ne font pas que ça. Qu'est-ce que vous faites d'autre encore ?
Oui, tout à fait. Alors, une grosse partie de notre travail, c'est le suivi de grossesse avant, pendant et après. Mais on a aussi une autre part qui est le suivi gynécologique de dépistage et de prévention, qui a tendance à augmenter. C'est une part de notre activité qui est de plus en plus conséquente du fait de la diminution du nombre de gynécologues, des départs à la retraite non remplacés. Et donc, du coup, une grosse partie de notre activité, c'est de l'accompagnement en suivi gynécologique. Donc, ça va être le suivi de prévention avec la visite annuelle où on fait l'examen des seins pour la prévention du dépistage du cancer du sein, où on vérifie au niveau gynécologique, et notamment dans le cadre dans le dépistage pour le frottis, pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Et puis également dans tout ce qui est instauration de la contraception, suivi, renouvellement, mais tout ce qui est aussi pose et retrait de contraception type stérilet, implant. Et puis également dans un versant un petit peu plus particulier, en rééducation périnéale sur des troubles périnéaux, des douleurs vulvaires, vaginales, des problèmes de vaginisme. Et également, on a aussi tout ce qui est versant vaccination, prévention auprès des jeunes. Et puis aussi l'accompagnement aussi dans les cadres de l'orthogénie pour les interruptions volontaires de grossesse.
Merci, vous avez fait la transition pratiquement pour moi, c'est super. On va parler donc tout à l'heure, après la musique, la pause musicale, on va parler prévention. À tout de suite. Yeah. Everywhere I'm turning, nothing seems complete. I stand up and I'm searching for the better part. Me, yeah. I hang my head from sorrow so much. State of humanity. What's up? Wearing on my shoulders, gotta find strength in me. Yeah. Vous êtes sur Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter
Superwoman de Alicia Keys.
Merci Alexandra. Avant qu'on passe aux autres questions, je voulais revenir simplement sur l'accès direct, à savoir est-ce qu'une patiente peut venir vous consulter directement sans passer par la case médecin et surtout qu'elle puisse se faire rembourser donc sur la part complémentaire et la part caisse. Comment ça se passe ?
Tout à fait, l'accès est direct. La patiente peut directement prendre rendez-vous auprès de nous, donc soit en nous trouvant sur l'annuaire de l'ordre des sages-femmes, soit sur les plateformes de réservation en ligne ou par téléphone. Les deux seules exceptions pour lesquelles on a besoin d'une prescription, c'est dans le cadre des surveillances de grossesse pathologique avec une surveillance monitoring, ou dans les cas de rééducation périnéale hors rééducation du postpartum. Au niveau de la prise en charge, la prise en charge est intégrale à 70% par la Sécu et 30% la mutuelle. Il y a une petite exception dans le cadre de la grossesse où on a le forfait de 100% maternité qui fait qu'à partir de la déclaration de grossesse et jusqu'aux 12 jours après l'accouchement, on a une prise en charge à 100% des consultes mensuelles, de l'entretien prénatal, des premières visites à la maison. Et également de la rééducation du périnée.
D'accord. Donc retenons finalement que l'accès est possible. Donc une femme peut venir vous voir directement au cabinet et même s'il y a une orientation par la suite, elle sera remboursée quoi qu'il en soit.
Tout à fait.
Ok.
Moi j'avais une petite question. On a parlé de la contraception tout à l'heure. Vous avez le droit de prescrire du coup les différents moyens de contraception aux femmes qui viennent vous voir ?
Oui, nous avons le total droit de prescription de contraception. Ça fait partie de nos droits de prescription. Donc de l'ensemble en fait des contraceptifs, hein, que ça soit de la pilule, que ça soit le stérilet, que ça soit l'implant, que ça soit les méthodes barrières comme le préservatif, les caps, le diaphragme. Enfin voilà, de l'ensemble des méthodes de contraception. On va juste réorienter en contraception définitive vers un gynécologue parce que c'est une prise en charge chirurgicale dans ce cas-là.
D'accord. Donc vous posez aussi les implants alors ?
Tout à fait. D'accord. On pose, on enlève
les
implants.
Aussi.
Exactement.
D'accord.
Parlons prévention. Alors, la prévention.
Eh ben, nous arrivons bientôt au mois de juin, qui depuis 2014, il me semble, l'Institut national du cancer a voulu mettre l'accent sur ce mois de juin vert pour la prévention du dépistage du col de l'utérus. Donc, le col de l'utérus, c'est la partie fine qui relie entre le corps d'utérus et le vagin. C'est une partie qui est non visible, mais qu'il est important de surveiller parce qu'elle peut être le siège de développement de lésions précancéreuses et également, par la suite, si ce n'est pas pris en charge à temps, de cancer. Donc, dans le cadre de cette prévention, il y a un dépistage organisé qui fait qu'en général, on reçoit un courrier au moment où on a besoin de faire ce dépistage. Donc, ce dépistage débute à 25 ans. On ne fait pas de dépistage avant 25 ans parce que le principal virus qui peut être responsable des lésions du col de l'utérus ou de cancer...
C'est le papillomavirus ?
Oui, c'est ça, c'est le papillomavirus. Et ce papillomavirus, 80% de la population a été en contact à un moment donné, mais pas 80% de la population a développé des lésions précancéreuses et cancéreuses. Et on sait que chez les jeunes, ce virus se transmet très facilement et disparaît rapidement en 1 ou 2 ans. D'où l'importance de bien commencer le dépistage après 25 ans pour pas rentrer dans une prise en charge médicale, voire chirurgicale, alors qu'en fait, ce n'aurait pas été nécessaire parce que ça se serait résolu tout seul. Donc voilà, premier frottis à 25 ans, deuxième frottis à 26 ans. Si tout est normal, on en refait 3 ans après, aux alentours de 29 ans. Et puis, au-delà de 30 ans, le dépistage a changé il y a peu. On ne fait plus une analyse cellulaire, mais on va rechercher directement le papillomavirus parce qu'on a une meilleure spécificité. Et donc, du coup, cette recherche est préconisée tous les 5 ans. Mais c'est quand même important, en parallèle, d'avoir un suivi gynéco annuel et que chaque an, la sage-femme puisse faire un examen du col, vérifier son aspect et donc pouvoir éventuellement faire le frottis plus tôt si jamais on a des lésions, enfin des modifications du col qui nous interpellent.
Donc le frottis, c'est tous les 5 ans après 30 ans alors ?
Oui. Alors, c'est dans les recommandations, test pour le papillomavirus tous les 5 ans. Après, je vous avoue qu'en pratique, on n'est pas beaucoup à le faire tous les 5 ans. Parce que...
C'est long.
C'est long. Et du coup, les patientes sont beaucoup plus rassurées si on le fait plus régulièrement. Et j'avoue que moi, je le fais tous les 3 ans. Je les informe, mais j'avoue de le faire tous les 3 ans parce que même les patientes, elles en ressentent le besoin. Des fois, même 3 ans, elles nous disent c'est long. Mmh. Donc, du coup, voilà, on le fait un peu plus rapproché. Alors, peut-être que c'est une pratique à revoir en fonction vu que c'est quelque chose d'assez récent, un protocole récent, de voir sur l'évolution. Mais effectivement, on peut rapprocher aussi à la demande de la patiente. Voilà, on s'adapte. Mmh.
Et du coup, vous disiez aussi que vous pouvez voir quelque chose sur le col de l'utérus, d'un aspect visible en fait, qui va vous interpeller.
Oui, exactement. Alors, le cancer du col de l'utérus, qui est pratiquement causé dans la majorité des cas par le papillomavirus, n'est pas toujours symptomatique. C'est-à-dire que la patiente ne va pas forcément avoir de symptômes. C'est pour ça l'importance de venir vérifier. Et nous, effectivement, à l'examen visuel, on peut avoir des modifications de l'aspect cellulaire, de l'aspect de la muqueuse, qui peuvent nous faire dire « Ah, bah là, peut-être qu'il y a quelque chose qui explique ce changement. Ce col est un peu irrégulier, ce col est un peu boursouflé ou ce col a un petit nodule. » Et donc, du coup, on peut se dire « Ah, peut-être que ça peut être un facteur de risque de lésion précancéreuse. » Et donc, du coup, de faire le frottis avant, si ce n'est pas l'année du dépistage, pour pouvoir avoir une prise en charge plus rapide.
Vous disiez que la majorité des cancers du col de l'utérus sont dus au papillomavirus. Il existe un super vaccin qui fonctionne super bien.
Exactement, c'est le deuxième volet de Juin Vert aussi, c'est d'informer sur la prévention avec le dépistage, mais aussi sur... d'informer sur le dépistage, mais aussi sur la prévention, avec notamment la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Donc, un vaccin qui n'est pas obligatoire, mais recommandé chez les jeunes filles, mais également depuis le 2021 chez les hommes, et notamment les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes, parce qu'ils peuvent aussi être atteints par le papillomavirus et ils peuvent développer aussi des cancers. Alors, pas du col de l'utérus, parce qu'ils n'ont pas d'utérus, mais il y a des cancers péniens, oropharyngés, anorectaux. Donc, du coup, c'est important. Et donc, ce vaccin est conseillé de le faire entre 11 et 14 ans, avant, du coup, les premiers contacts par relation sexuelle, et est constitué de 2 doses à faire espacer d'environ entre 6 et 13 mois.
Et donc, ces vaccins qui peuvent être faits par les infirmières libérales, est-ce que vous pouvez faire les prescriptions pour les faire, justement ?
Exactement. Effectivement, ce vaccin peut être fait par les médecins, par les sages-femmes, mais également par les infirmières, sur prescription faite par une sage-femme ou un médecin.
OK.
Moi, je reviendrai sur justement l'examen et le frottis en lui-même. Peut-être qu'il y a des personnes jeunes qui nous écoutent. Est-ce qu'on pourrait expliquer comment ça se passe exactement, un dépistage ?
Oui, tout à fait. Alors, le dépistage, comme je vous l'ai dit précédemment, le col de l'utérus n'est pas visible de l'extérieur. Donc, on a besoin d'utiliser un outil qui s'appelle le spéculum, qui est un petit tube en plastique qui va nous permettre d'accéder au fond du vagin. Et du coup de pouvoir écarter les parois vaginales pour avoir accès à ce col de l'utérus qui ressemble à un petit donut en fait, en quelque sorte. Et ensuite, pour pratiquer le dépistage, on utilise une cytobrosse. On va venir faire quelques tours avec une brosse pour prélever des cellules du col. Donc c'est un examen qui est indolore, qui est facile à faire, qui doit être fait si possible en dehors des périodes de règles ou d'infection pour un meilleur dépistage. Et donc, une fois qu'on a prélevé avec la brosse les petites cellules du col, on va le disperser dans une solution liquide et ensuite le transmettre au laboratoire pour qu'il puisse faire l'analyse.
Au bout de combien de temps on reçoit les résultats à peu près ?
Alors, les résultats sont assez rapides, surtout depuis qu'il y a le test pour le papillomavirus qui peut être fait dans les labos de ville. Avant, il y avait besoin de réorienter sur des centres, notamment à Lyon. Donc du coup, là, on peut avoir le résultat sous moins d'une semaine pour les tests au-delà de 30 ans sur le papillomavirus. Et pour les frottis cellulaires avant 30 ans, il faut généralement un délai un petit peu plus long parce que ça part effectivement sur des centres spécialisés, et notamment sur Lyon. Et en moyenne, il faut une dizaine de jours.
Je sais qu'on reçoit aussi, comme pour les dépistages des autres cancers, des petits feuillets régulièrement sur le dépistage du cancer du col de l'utérus également. Du coup, quand c'est ces petits feuillets qu'on vous apporte à vous en tant que sage-femme, vous avez une mission complémentaire, il faut les renvoyer à d'autres organismes que ceux habituellement, parce que du coup, ces feuillets-là, ils viennent du CDHS, c'est eux qui recentralisent après.
Alors en fait, oui, ces feuillets, je ne sais pas exactement par qui. Si vous voyez, mais les feuillets, en fait, sur les feuillets qu'il y a, ça rappelle à la patiente que c'est l'année où elle doit aller consulter pour son dépistage organisé. C'est comme pour le dépistage du cancer du sein. En fait, les instances sanitaires ont les listings avec les dates de naissance, ce qui permet de lancer les patientes. Et en fait, sur ces feuillets, on a surtout des étiquettes préfaites qu'on va coller sur les tubes et sur le bon. Et du coup, ça va permettre également une prise en charge aussi intégrale pour le coût du dépistage. Et également, ça revient pour des statistiques après au niveau des instances nationales.
D'accord. Et vous recevez les résultats en même temps que les patients, vous, de votre côté, ou c'est uniquement nous qui les recevons ?
En général, les patientes ne reçoivent pas les résultats, vu que comme un dépistage, on peut être amené à avoir un résultat pathologique. Donc du coup, c'est nous qui recevons les résultats. Et donc, on a l'habitude de dire à la patiente que si on ne la recontacte pas, c'est que le frottis est normal. Et que si jamais il y a quelque chose de particulier, on va la rappeler, lui réexpliquer, éventuellement la revoir en consultation et l'orienter vers un gynécologue pour les examens complémentaires.
Des événements donc vont avoir lieu sur le mois de juin pour participer à cette prévention de juin vert par la CPTS Beaujolais d'Ombes. Nous vous invitons à venir consulter notre site internet www.cptsbeaujolaisdombes.fr. Je vais y arriver, excusez-moi. Vous pourrez retrouver les manifestations, les événements que nous préparons.
I can love you if you get it going on. If you got it, got it, got it.
Santé Beaujolais d'Ombes.
L'émission de santé du territoire.
100.9.
Vous êtes sur Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter
I Am Woman de Amy Mellie.
Marie, je crois que vous avez...
Oui, j'ai fait une petite boulette tout à l'heure. Je l'assume, je l'avoue. Je me mélange dans les acronymes. Ce n'est absolument pas le CDHS qui envoie les feuillets de dépistage. C'est le CRCDC. Voilà. Donc, autant pour moi.
Ok, merci. Super pour la transition. ça sera rendu. Nous allons vous présenter donc, les soins non programmés. C'est le second temps de notre chronique. Les soins non programmés tiennent une place importante au sein des communautés professionnelles territoriales de santé qui se sont données pour mission d'assurer une prise en charge globale et coordonnée des patients sur leur territoire. Les soins non programmés regroupent l'ensemble des soins qui ne peuvent pas être planifiés à l'avance, tels que les urgences médicales comme les consultations de médecine générale en urgence. Cette organisation a été mise en place pour réduire l'afflux des urgences qui n'en sont pas et sur des usagers qui pourraient se rendre directement sur l'hôpital. Notre CPTS a mis en place des dispositifs permettant de répondre aux besoins des soins non programmés sur notre territoire. Elle a développé des outils de coordination de soins comme une plateforme d'appel disponible pour les professionnels de santé et le SAMU de Lyon et de Bourg. Pour nous présenter, Marie.
Oui, nous allons donc accueillir Pascale Frédier, opératrice de la CPTS. Pascale, pouvez-vous nous expliquer comment ça marche et comment on peut avoir accès à ce type de service ?
Alors, donc, si vous avez un besoin urgent de voir un médecin généraliste, donc je répète, un besoin urgent mais non vital, que devez-vous faire ? Déjà, premier réflexe, vous appelez votre médecin traitant. Mais si votre médecin traitant est indisponible ou que si vous n'avez pas de médecin traitant, à ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit vous faites le 15, soit vous pouvez vous rapprocher d'un professionnel de santé. Ça peut être un pharmacien, mais pas que. Ça peut être aussi un kinésithérapeute, une orthophoniste, ou un professionnel de santé, une infirmière ou infirmier. En fait, si ce professionnel de santé, au décours de la conversation, se rend compte qu'effectivement, vous auriez bien besoin de voir un médecin généraliste rapidement, à ce moment-là, il va déclencher ce qu'on appelle les soins non programmés, c'est-à-dire qu'il va faire une demande auprès de la CPTS. Alors, comment va-t-il s'y prendre ? Eh bien, il va... remplir un formulaire en ligne sur notre espace le nom de notre site, www.cptsbeaujolaisdombes.fr, un formulaire qui est trouvé sur son espace dédié en tant que professionnel de santé, où il peut tout simplement nous appeler. Une fois qu'on reçoit la demande, eh bien, nous, on va contacter le patient qui recherche ce médecin généraliste.
D'accord. Donc, en fait, c'est le professionnel qui déclenche le parcours. Il vous appelle et après, vous recontactez le patient.
Voilà. Après, à partir de là, on s'occupe de tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle est l'offre de la CPTS ? Eh bien, c'est un service. On va tout mettre en œuvre pour trouver le médecin généraliste le plus proche possible du patient et plus rapidement possible. En général, on agit dans la journée ou ça peut être aussi le lendemain matin parce que tout dépend de quand arrive la demande. Alors, pourquoi on arrive à faire ça ? C'est parce que on a des médecins généralistes adhérents à la CPTS qui nous offrent des créneaux d'urgence en dehors de leur patientèle, pour répondre justement au désengorgement des services d'urgence.
D'accord, donc il faut être adhérent à la CPTS en tant que médecin généraliste pour proposer ces créneaux-là et pour que vous puissiez les voir s'afficher en disponibilité.
Voilà, on travaille avec des médecins généralistes de la CPTS, mais pas que, parce que parfois quand les médecins généralistes, on n'en a pas de disponibles, on peut être amené à appeler des médecins généralistes du territoire.
D'accord.
Donc, juste une petite précision, la CPTS, elle travaille aussi avec le SAMU Lyon, le SAMU Bourg et l'hôpital Nord-Ouest. En fait, quand vous faites le 15, Il y a des gens ou 15 qui vont essayer de juger de la, du degré de, d'urgence de la demande. Et si les médecins régulateurs jugent que c'est une demande qui nécessite une consultation auprès d'un médecin généraliste de ville et que vous faites partie du territoire Beaujolais-Dombes, à ce moment-là, il oriente la demande sur la CPTS et à partir de là, on prend la demande en charge, comme je viens de vous l'expliquer. C'est pareil pour le SAMU-Bourg, mais ça concerne que le plateau des Dombes. Et on travaille aussi avec l'hôpital Nord-Ouest, c'est-à-dire quand ils sont un peu surchargés, ils vont aller voir les patients. S'ils jugent que ça peut attendre une consultation de ville, ils nous envoient un formulaire. Voilà. Mais juste, je précise encore une petite chose, c'est que l'hôpital Nord-Ouest peut nous faire une demande, par exemple, le dimanche soir. Et nous, quand on va arriver, on va la traiter tout de suite le lundi matin. Donc, on va se rapprocher du patient pour savoir si la demande est toujours d'actualité.
Et oui, d'accord, parce que du coup, ces soins non programmés, ils sont actifs du lundi au vendredi.
Exactement, ils sont actifs du lundi au vendredi, de 9h à 17h et non-stop.
D'accord. Ludovic avait une question.
Pour moi, le SAMU, je n'aurais pas pensé finalement à appeler le SAMU.
Alors, en fait, il faut savoir que maintenant, le SAMU, ça ne déclenche pas forcément pompiers, SMUR, et c'est pas le scénario catastrophique. Non, non, en fait, il y a maintenant plusieurs niveaux de régulation, et en fait, ils vont déterminer si c'est de l'urgence, vraiment grosse urgence, auquel cas ils vont déclencher les pompiers ou autre chose, mais s'ils jugent que l'urgence peut attendre une consultation en ville, voilà, et ben ils vont nous l'orienter, si vous faites partie du Beaujolais-Dombes, sur la CPTS Beaujolais-Dombes.
Donc en fait, c'est un aiguillage.
Voilà,
le SAMU est un aiguillage.
Oui.
Et là, vous venez de dire en fait qu'il faut quand même être usager finalement de Beaujolais-Dombes.
Oui, parce que en fait, c'est une organisation qui est propre au Beaujolais-Dombes et les autres CPTS n'ont pas forcément la même organisation.
D'accord. Et comment on fait pour savoir si on appartient à notre CPTS Beaujolais-Dombes ?
Alors, on a un grand territoire qui va du nord, disons, Aigues-Perses. Alors, je ne sais pas si ça correspond à quelqu'un, enfin, si quelqu'un voit de quelle commune je parle. Au sud, ce serait Chasselet. À l'est, on va parler de Saint-Trivier-sur-Moignan et puis, disons, plus à l'ouest, Chamlette, par exemple.
D'accord.
Et un grand territoire de 120 communes.
Et on peut retrouver ces communes
Alors, peut-être pas vous, mais ou alors si, sur notre site. Mais sinon, le SAMU, ben, ils ont la liste des communes et puis ils nous les orientent directement. C'est automatique.
Ah oui, ok, c'est automatique.
Ouais.
D'accord, donc on peut savoir si on fait partie du territoire en allant sur le site que vous avez évoqué tout à l'heure.
www.cptsbeaujolaisdombes.fr, oui.
D'accord. Et du coup, depuis que ces soins non programmés sont en place, est-ce que vous avez vu certaines limites, certaines choses qui ne se sont pas forcément passées de la meilleure des façons ? Est-ce qu'il y a eu des petits couacs, on va dire
Ou peut-être la limite de fonctionnement de ce service ?
Oui, ou la limite des
fonctionnements. Alors oui, la limite de fonctionnement, oui, il y en a quelques-unes, puisque vous avez compris, je vous ai parlé d'une urgence non vitale. Sinon, je répète, vous faites le 15, vous êtes orienté vers l'hôpital. Il faut que votre médecin traitant soit indisponible, puisque en fait, nous, on va s'assurer que votre médecin traitant est bien indisponible. C'est la première intention, c'est le premier, disons, réflexe que vous devez avoir. Il faut habiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur notre territoire Beaujolais et sur le plateau des Dombes. Il faut que vous puissiez vous déplacer vers le cabinet. En aucun cas, on va vous proposer une consultation à domicile. Donc, c'est bien important. Soit vous vous déplacez ou vous faire transporter auprès du cabinet qu'on va vous proposer. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, on intervient du lundi au vendredi, de 9h à 17h, non-stop. Et autre chose qui est important à signaler, on ne prend pas d'appel direct. Ça doit passer forcément par un professionnel de santé. Pourquoi ? Parce que en fait, on n'est pas amené à faire de la régulation, on n'est pas médecin. Donc, si je prends votre appel, je ne peux pas juger de l'urgence. Je ne vous ai pas en face de moi, et c'est un professionnel de santé qui pourra juger de ça.
Concrètement, sur le terrain, ça se passe finalement comment ? Quelle est votre mission ? Comment ? D'après ce que j'ai compris, vous allez appeler l'usager, c'est ça ?
On appelle l'usager, on recueille ses informations. Après, on appelle le médecin traitant. On valide que son créneau est libre.
Donc, c'est l'usager, excusez-moi,
Le médecin généraliste. Ouais.
C'est l'usager donc, qui va vous donner le nom de son médecin traitant, s'il en a un, d'après ce que vous avez dit.
Oui, l'usager doit me donner le nom du médecin traitant et je peux valider s'il est disponible ou pas. Et puis après, moi, je lui trouve un autre médecin généraliste de la CPTS qui nous a proposé un créneau pour répondre à l'urgence. Voilà.
Moi, j'avais une dernière question pour vous, Pascal. En termes de quantité, ça représente quoi, les soins non programmés, enfin, que ce soit au niveau journalier ou hebdomadaire? Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner?
Alors, il faut savoir que depuis sa création, les soins non programmés montent en pression. On en a de plus en plus. Et ça peut être très irrégulier déjà. Et il y a des périodes où on peut monter jusqu'à 12 ou 13 soins non programmés dans la journée, ce qui représente beaucoup de travail. Voilà.
D'accord. Merci de nous avoir éclairés, en tout cas. Est-ce que personne d'autre n'a des questions?
Non, très intéressant.
Pascal autour de la table, j'ai deux. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Santé Beaujolais d'Ombe.
L'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter
Born This Way de Lady Gaga.
Nous vous rappelons que si votre état de santé nécessite une consultation urgente, sans vous rendre aux urgences, appelez le 15. Si votre état ne nécessite pas un plateau technique, vous serez redirigé vers nous, la CPTS Beaujolais d'Ombe, qui vous trouvera un rendez-vous avec un médecin généraliste. Vous pouvez également faire appel à un professionnel de santé adhérent à la CPTS pour vous aider dans la programmation de cette consultation d'urgence.
On a insisté sur la notion d'urgence, mais il faut bien savoir que ce sont des créneaux d'urgence que les professionnels et entre autres les médecins généralistes laissent. Nous remercions Lorraine Duret pour nous avoir permis de découvrir la profession de sage-femme.
Merci à vous pour votre accueil.
Et j'espère à très bientôt.
Oui.
Merci à Amaury au mixage pour cette première. Marie, Alexandra, rendez-vous même heure, même endroit.
C'est ça, à bientôt.
Et puis je crois qu'il y aura une petite nouvelle.
Oui,
il paraît.
À très bientôt.
Au revoir.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Galade.